Le Grand Matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Et dans notre débat ce matin, le casse-tête des trains de Noël pour des millions de voyageurs en ce premier week-end des vacances. Qui est le grand responsable du calendrier de l'Avent, comme on dit? Qui sortira gagnant du bras de fer dans le calendrier d'après? Et pour en débattre, trois intervenants, notre trio d'habitués comme chaque dimanche, un éditorialiste écrivain. Bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonjour.
En direct de Marseille, ça va?
Oui, absolument. Il fait beau à Marseille.
Oh bah, il fait beau. Ah bah voilà, ça y est, il commence déjà.
C'est toujours beau. Hein,
c'est toujours beau dans le sud, bien sûr.
Marseille, oui, toujours.
Ouais, bien sûr. Un philosophe parisien au téléphone également. Bonjour Vincent Cespedes.
Bonjour.
Ça va?
Oui, très bien. Et vous?
Bah, plutôt bien. Et avec moi en studio, une conseillère d'arrondissement élue Les Républicains dans le 12e à Paris. Bonjour Corinne Tapiero. Ah, on vous entend là? Bonjour.
Bonjour.
Voilà, voilà. Mais écoutez, je voulais tout de suite, puisqu'on va parler forcément des trêves, pas trêves. Pour commencer, j'aimerais avoir votre commentaire. Là, on l'a entendu dans le journal, le président Macron vient d'annoncer qu'il renonce à sa retraite de président. 6 000 euros brut, hein, qui est une retraite à vie pour chaque président qui quitte l'Élysée. Privilège de l'ancien monde ou pas? Que pensez-vous de ce geste symbolique? Je commence par vous, François-Olivier Gisbert.
Quand vous dites 6 200 euros, vous ne dites pas tout. C'est... Ah. En plus, il y a une indemnité du Conseil constitutionnel. Enfin, simplement, il faut y aller. Hein, pour ça. L'ancien président doit y aller. Mais c'est les membres de droit du Conseil constitutionnel. Ça fait 13 500 euros dans tout.
Ah,
ça
oui.
fait pratiquement 20 000 euros hein, qu'il laisse. Bah, je trouve que c'est pas mal comme geste. Alors, bon, on peut dire que c'est un peu démago.
Oui.
C'est vrai aussi qu'il vient de fêter ses 42 ans. La retraite, c'est encore loin. Mais enfin, je trouve que c'est oui, cette façon de dire, voilà, je vais m'appliquer ça à moi. C'est bien. Il aurait pu dire aussi, je crois que ça aurait été, on aurait pu considérer ça moins démagogue aussi. Bon, bah, écoutez, on va changer le système de toute façon. Donc, les retraites de président, elles seront soumises au même système, régime universel, à points, etc. Mais bon, il a préféré faire un peu plus. Peut-être qu'il a de l'argent, je ne sais pas, ou qu'il pense en faire plus tard. Mais c'est vrai qu'il laisse partir là, 20 000 euros pratiquement par mois.
Alors, vous ne voyez pas la tête de Corinne Tapiero qui est avec moi là en studio, mais elle vous écoutait en faisant, je ne sais pas, elle a l'air moins convaincue que vous.
Moi je suis absolument pas convaincue. D'abord, je trouve ça très chaud, c'est très démago, si je suis d'accord avec vous, François-Olivier, mais quand même, les indemnités de chef de l'État, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un métier. Normalement, c'est un engagement. Et annoncer qu'il renonce à sa retraite... Très bien, mais franchement, je ne pense pas que ça va démobiliser qui que ce soit, ouais. Calmer les esprits, attiser la colère qui monte des usagers, non pas seulement contre, peut-être parfois, les grévistes, mais contre le gouvernement. Enfin, on vit en Île-de-France un enfer quotidien. Les desiderata et le futur du président de la République, tout le monde s'en moque. Comme d'une guigne aujourd'hui. Mais vraiment, c'est terrifiant. Parce que je crois qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'il peut annoncer sous le soleil d'Abidjan, ou je ne sais plus où il est, et ce que vivent aujourd'hui une grande partie des Français. Mmh. Donc il y a un moment où ce décalage, c'est plus supportable. Alors on sait très bien qu'il joue le pourrissement. Il annonce ça de façon très démagogique, bien sûr, pour dire « moi je suis un grand seigneur, je renonce ». Mais encore heureux qu'il renonce. Moi, je serais favorable à ce que tous les politiques qui plombent les finances d'un pays ou les finances d'une commune soient condamnés à payer et rembourser. Je peux vous dire qu'ils dépenseraient moins.
Ouais, ça c'est sûr. Vincent Cespedes, geste symbolique, démago.
C'est un geste, pour moi, ridicule, parce que, d'abord, effectivement, je suis tout à fait d'accord, on s'en fiche. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce grand combat, grève, pas grève, solidarité intergénérationnelle, lutte pour le futur, etc., c'est l'interdépendance. Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous sommes à une époque où, justement, on veut nous faire croire qu'on est tous des individus séparés, tous en compétition. Et donc, là, il va individualiser le geste. C'est moi, c'est mon salaire que je mérite. Ou... Alors qu'en fait, la grande question, c'est l'interdépendance de tous avec tous. Donc je vois vraiment un truc solo, une sorte d'exemplarité fake qu'il essaie de montrer, alors que le combat, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Et c'est une façon de narcissiser le débat. qui me semble complètement déplacé.
Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, c'est encore le casse-tête, là, du côté de la SNCF. Beaucoup de gens ne savent pas s'ils vont pouvoir avoir un train à Noël ou pas. Et en même temps, le mouvement reste encore, pour combien de temps, on n'en sait rien, plutôt populaire. En tout cas, il a l'air plus populaire que le gouvernement. Comment vous pouvez expliquer ce paradoxe ou ce contraste, François-Olivier Gisbert?
Bah, d'abord parce que je vous signale, les médias parisiens ne se rendent pas compte, mais les Français n'habitent pas à Paris tous. Hein. Et c'est vrai quand on vit en région, bah oui, on est quand même pas trop. Et parce que quand on vit en région, on voit pas du tout la grève de la même façon. Il y a une grève de la SNCF, mais ce qui rend les choses épouvantables à Paris, vous le savez bien, en plus c'est la grève de la RATP. Les deux grèves cumulées font qu'effectivement Paris, j'étais l'autre jour, un enfer, c'est-à-dire les gens sous la pluie qui marchent, enfin, c'est juste atroce. Mais il y a quand même un phénomène qui fait que je pense qu'on va quand même, bon gré mal gré, vers un règlement du conflit, c'est que le soutien baisse. Le soutien baisse lentement mais sûrement, mais il baisse.
Oui, mais quand même, enfin, au bout de
points,
X semaines.
Moins 3 points dans le journal du dimanche, oui, mais enfin, on voit que les chiffres sont quand même, ils évoluent dans la mauvaise direction, et le soutien, enfin, il y aura plus de soutien d'ici quelques jours, c'est absolument évident. Et je pense que il y a autre chose aussi qui fait que on va vers vers un règlement aussi, c'est que je pense que les Français sont toujours très nombreux à penser que le gouvernement ira jusqu'au bout. Donc, cette espèce de la certitude que le gouvernement ne cédera pas, enfin, de toute façon, il va céder un peu, le gouvernement, c'est évident qu'il va céder, il a déjà cédé un peu et ça va continuer, mais en tout cas, cette certitude fait que les gens s'habituent déjà à l'idée que cette
réforme va passer. Est-ce que Vincent Cespedes est sur la même longueur d'onde? Pas forcément, d'ailleurs, de François Gisbert. Allez-y.
Pas forcément. D'abord, le soutien est là. On aurait pu s'attendre à ce qu'il décline un peu. On est quand même pas loin de Noël et des fêtes, et il est là. Je crois qu'il est à 60%, 62%. Donc c'est quand même très conséquent. Les gens interrogés quand même subissent une pression énorme. On voit bien beaucoup de journalistes qui disent alors grève égale galère, galère égale grève, etc. Et souvent, on a des personnes interrogées qui rétorquent « Mais non, je soutiens, c'est galère, mais... » Donc ça, c'est vraiment, pour moi, très spectaculaire. Mmh. Et puis, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que on sent que là, il y a quelque chose qui doit se jouer aussi contre la direction syndicale. Quand vous avez la CFDT qui dit « Bon, allez, on fait une trêve... » Vous avez les cheminots, l'UNSA cheminots qui dit non, malgré la direction, on va quand même faire grève. La CGT Martinez, aller rendez-vous le 9 janvier, mais finalement c'est une façon de faire une trêve et la base n'est pas contente. Moi, ce que je vois, c'est que la base est en train de s'auto-organiser et de se dire la grève appartient aux grévistes. Et ça, pour moi, c'est vraiment spectaculaire et surtout, ça va gilet jauniser la grève. Oui, c'est-à-dire revenir à la base indépendamment des directions. C'est ce que je vois.
Corinne Tapiero, elle n'est pas encore intervenue. Allez-y.
Moi, je constate effectivement qu'il y a un soutien hein, quand même massif des Français à cette grève, y compris à Paris, puisque quand on marche, tout le monde se parle. Au moins, c'est un avantage.
Il y a beaucoup d'agressivité.
Il y a beaucoup d'agressivité, quand on arrive un peu à oublier les difficultés passagères. Pour vous donner une idée, hier, moi, j'ai été contrainte à faire plus de 18 km dans la journée.
Mais c'est bien, on fait du sport avant
Noël. Non, mais attendez, du sport avant la journée. Il y avait des personnes âgées qui étaient dans la même situation que moi et qui étaient obligées de marcher dans des conditions défavorables. Moi, ce qui m'inquiète, vous dites que le gouvernement va céder un petit peu. Quand j'ai entendu le discours d'Édouard Philippe, quand il a commencé par dire l'âge pivot, donc j'ai bien pensé que nous n'aurions pas de train ni à Noël et peut-être pas au jour de l'an, et quand il a parlé de supprimer, de passer, que le temps du régime spécial était passé, je me suis dit, on est tranquille jusqu'au 15 janvier, on ne verra pas un métro. La réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on veut se dégager de ces régimes spéciaux et les refondre, mais on est en train de créer une multitude de spécificités qui vont être bien plus coûteuses que ne le sont aujourd'hui les régimes spéciaux. Donc moi, je pense que cette réforme qui est curieusement mal emmanchée, parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle est discutée par quelqu'un qui... semble-t-il, avait et a encore toute la confiance du président de la République, mais visiblement, il manquait un peu de clairvoyance, il n'a pas vu arriver les choses. Et puis, ce calendrier désastreux...
Mais on va en reparler de ce calendrier, de cet âge pivot qui ne passe pas avec vous trois. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Le débat de la semaine.
Et c'est la suite de notre débat consacré au train Noël, à l'âge pivot et au bras de fer qui continue entre le gouvernement et les grévistes contre la réforme des retraites. Toujours en compagnie de Franz-Olivier Gisbert, de Vincent Cespedes et de Corinne Tapiero, qui ne sont pas forcément les uns et les autres toujours d'accord. C'est ça qui est plutôt bien. Franchement, on parlait du calendrier de l'avant, qui est responsable. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le calendrier de l'après. Il ne serait pas plus sage de le bouger, ce fameux calendrier de la réforme, Franz-Olivier Gisbert? Je commence par vous.
Moi, je pense que le gouvernement s'est débrouillé comme un manche. C'est-à-dire que cette réforme-là, il fallait la faire dès le début. C'est-à-dire dès le début du quinquennat. Une réforme de cette ampleur, on ne la fait pas comme ça, à mi-chemin, alors que, disons, les forces de l'opposition se sont réveillées, comme toujours. Vous savez, les grandes réformes, quand on regarde les grands réformateurs de l'histoire, Roosevelt, Thatcher, Mitterrand, tout ça, Reagan, ce sont des gens qui ont réformé tout de suite, dans les trois premiers mois. Enfin, disons, parfois les 4-5 premiers mois, mais enfin, tout de suite. Là, une réforme comme ça, c'est évident que ça va être compliqué. Bon, elle va passer quand même à terme, parce que contrairement, disons, aux fables que j'ai entendues tout à l'heure, le soutien, il suffit de lire le journal du dimanche de ce matin, le soutien au mouvement n'est pas si large. C'est pas vrai. Et en plus, il est en diminution.
L'âge pivot, ça va pas bouger, vous pensez, vous? Enfin, on a bien compris qu'Edouard Philippe ne voulait pas. Le président Macron a quand même dit, bon, on va réfléchir à une amélioration possible, je le cite, hein, autour de l'âge pivot. Vous y croyez pas?
Je suis sûr que ça va bouger. De toute façon, le gouvernement est obligé de faire un pas. Et il le fera en direction de la CFDT. Pourquoi en direction de la CFDT, syndicat que Vincent n'aime pas? Parce que c'est le premier syndicat français. Oui, mais c'est le premier syndicat français. C'est le plus important. Syndicat réformiste, ce qui est peut-être une insulte dans la bouche de Vincent, mais c'est un syndicat sérieux, dur, qui mène des combats durs, mais avec lequel on peut discuter. Alors que la CGT, on peut vraiment pas vraiment discuter quand on voit c'est un comportement de desperados jusqu'au boutiste, anarcho-syndicalisme, enfin je ne sais pas trop ce que c'est. Et d'ailleurs, il est en train d'emmener d'ailleurs ses salariés, enfin ses syndiqués dans le mur, comme il l'a fait pour la loi Les Commeries 2, pour la réforme de la SNCF, et là vous allez voir, ça va être la même histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, vous savez très bien, c'est qu'en 95, les syndicats de la RATP et de la SNCF avaient fait croire aux Français qu'ils se battaient pour eux. Ben aujourd'hui, les Français, ils sont pas dupes. Hein. Mmh. Ils voient bien que... Enfin, ils n'ont pas envie de se battre pour les retraites à 52 ans ou à 56 ans des autres, et globalement, dans les sondages, et c'est ça qui est important, parce qu'on parlait de sondages tout à l'heure, les Français sont pour l'idée de la réforme, pour un régime universel. Je suis désolé, tous les sondages le montrent, il y a un soutien au projet. Alors le projet, évidemment, il n'est pas parfait, mais en fait, ce que les syndicats en grève reprochent au projet, c'est évidemment le fait de mettre en question leurs avantages. Bon,
France, ok, d'accord. On va laisser la parole quand même à Vincent Cespedes. J'ai un problème avec la CFDT, Vincent Cespedes?
Ah non, pas du tout.
Ah oui, visiblement, je l'entends à chaque fois.
On connaît.
Premier syndicat français.
Écoutez, vous pouvez débattre seul si vous voulez, mais si on débat, je dois pouvoir répondre. La CFDT, on voit très bien le jeu que c'est. C'est un jeu de négociation. Elle vient dans et ensuite elle se retire. Ce que vous dites, à mon avis, ne correspond pas à la réalité. D'abord, il y a la CGT, il y a une cagnotte qui atteint 1 million d'euros, donc les gens se mobilisent, et c'est très intéressant de voir ce système de cagnotte. C'est quelque chose, pour moi, de très, très nouveau, c'est-à-dire que la cagnotte touche tout le monde, tous les citoyens peuvent participer financièrement. Ensuite, il y a une chose qui n'est pas du tout dite, c'est que, bien sûr, la novlangue appelle réforme ce qui est une régression, et je crois vraiment que la majorité s'accorde pour dire que tout le monde va perdre de l'argent dans ce truc-là. C'est une régression globale. Et cette novlangue qui appelle toute transformation sociale une réforme, c'est vraiment une trahison de ce que c'est le réformisme. Moi, je suis pour le réformisme. Le réformisme qui vient d'ailleurs du socialisme du 19e siècle. Le socialisme réformisme, Jaurès, Blum, tout ça, on a des grandes figures. La réforme, c'est d'abord une amélioration sociale. Et aujourd'hui, la régression elle-même est appelée réforme. Voilà. Donc, et dernière chose, il y a une chose aussi qui est oubliée, c'est la joie de la grève. C'est Simone Veil, pas Simone Veil la politique, mais Simone Veil avec un W, la philosophe. En 36, elle écrit des magnifiques articles, elle explique, elle devient ouvrière pour voir ce que c'est être ouvrier de l'intérieur, et elle dit cette grève en elle-même est une joie pure. Elle raconte la fraternité dans la grève. Et ça, beaucoup de témoignages le montrent. Il y en a même qui appellent ça la deuxième famille. Et on oublie cette dimension émotionnelle qui est fondamentale et qui a été éprouvée pendant un an de gilets jaunes. C'est-à-dire que les gens se rencontrent et retissent du lien à travers ce combat.
Ça, c'est vrai.
Ah, pas pour une fois qu'ils sont d'accord, les deux, là. Corinne Tapiero, allez-y.
Mais écoutez, moi, ce qui m'étonne sur ce calendrier, et j'écoutais avec attention ce que disait Monsieur Franck-Olivier Gisbert, pardon, sur le fait que Macron aurait dû faire cette réforme au départ. Mmh. Mais Macron croit quand même, depuis son élection, qu'il a été élu par une majorité des Français qui lui ont donné un blanc-seing. Or, il n'a pas été élu par une majorité si écrasante que ça des Français. Dans son programme, il n'était pas question de réforme des retraites en l'état, ni d'âge pivot, ni même d'allongement de la durée de vie, etc. Enfin, de la durée de travail, pardon. Et donc, ni même de régime universel. Mmh. Donc, je pense que là, il n'aurait pas pu le faire dans les premiers temps. Ce qui est curieux, c'est qu'ils aient choisi... Alors, je ne peux pas croire qu'il ne l'ait pas fait exprès.
Oui, parce que...
Je pense qu'ils ont choisi précisément cette date... En se disant, les Français ne supporteront pas qu'on touche à leur fête de Noël et
ça
du jour de l'an.
Sainte voilà. Famille.
Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, et en termes de communication, c'est assez frappant, chacun des ministres qui est appelé à s'exprimer rappelle ce mot « trêve de Noël », d'autres tas d'éléments de langage.
C'est pas de la novlangue, hein, pour
c'est
le coup.
C'est pas de la novlangue, ouais. Il le rappelle systématiquement, mais moi je suis choquée qu'il ne soit pas plus préoccupé de la difficulté pour les Français d'aller travailler. Alors c'est regrettable de ne pas pouvoir passer les fêtes en famille, et je n'en disconviens pas, mais quand même, depuis 18 jours, on a tous les Franciliens, alors plus ou moins dans les grandes villes de province aussi des difficultés. Mais en fait, il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler. Il y a des examens qui n'ont pas eu lieu. Donc je ne pense pas que c'était un hasard, cette date choisie. Ils s'imaginent le pourrissement de la situation. Moi, je reste convaincue, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça durera au moins jusqu'au 15 janvier. Il y a une grande manifestation le 9 janvier. Les jeunes lycéens s'en mêlent, sont aujourd'hui de la partie, parce qu'ils sont les premiers concernés, puisque ça concerne des gens nés après 75, donc ils sont en plein dedans. Ils vont se sentir légitimés et c'est une vraie difficulté.
Bon, bah, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler tous ensemble, bien sûr. Merci encore une fois pour vos interventions à vous trois. J'ai envie de vous dire quand même joyeux Noël. Bon, François-Olivier, vous n'avez pas besoin de prendre de train, vous êtes à Marseille.
Non, maintenant, je suis quand même obligé de prendre la voiture parce que c'est vrai que je disais qu'en région c'est mieux, mais c'est sûr que la SNCF, il y a des problèmes avec les TER. Il y en a
la pollution.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais prendre la voiture.
Pollueur.
Joyeux Noël.
Bon Noël aussi. Joyeux Noël, voilà, on se retrouve très vite. Merci Vincent Cespedes.
Merci.
Merci, à bientôt. Et merci Corinne Tapiero d'avoir fait le déplacement ici en studio. À plus tard. Bienvenue à vous qui nous rejoignez les grands matins week-end. Ça continue, il est 9h27.